French Connection. Cette semaine, nous allons aborder un segment technique avec Guillaume.
Salut, ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, ça va bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé au podcast, fait que je suis content d'être de retour.
Effectivement, nous sommes également très intéressés à ton retour, puisque tu nous abordes des segments techniques très intéressants. Et on va aborder un segment avec Bloodhound et comment on peut l'utiliser dans un contexte plus Blue Team.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, Bloodhound, qui est un outil pour attaquer Active Directory normalement, que beaucoup de Red Teamers qui nous écoutent en ce moment connaissent, mais c'est un outil qui peut être super utile pour les Blue Teams, ben, comme beaucoup d'outils qui sont bons pour les Red Teams, ce qui est bon pour l'attaque et souvent bon pour la défense ou au moins pour comprendre comment ça fonctionne. Mais spécifiquement, si vous travaillez en entreprise puis que vous avez Active Directory, de ne pas utiliser Bloodhound, c'est vraiment de perdre de l'information qui est super, super pratique. Donc, une des choses qui peut être assez compliquée à sécuriser dans Active Directory, c'est le fait que les permissions sont super granulaires, ça peut être super pratique, mais puis sont distribuées. Donc, on ne peut pas facilement ouvrir le compte utilisateur d'une personne dans la console Active Directory puis voir c'est quoi ses droits. Donc, même si quelqu'un n'a aucune permission spéciale au niveau de ses groupes Active Directory, on ne sait pas est-ce qu'il est capable d'aller lire les fichiers dans tel partage à gauche, à droite, est-ce qu'il est capable d'aller changer le mot de passe d'un autre compte à Active Directory, etc. On ne peut pas voir ça de façon centralisée super facilement parce que l'information n'est pas dans la base de données d'Active Directory, est dans le partage en question, est sur les comptes des autres utilisateurs, donc c'est un peu partout. Donc, Bloodhound, à la base, est utilisé pour aller chercher un paquet d'informations de Active Directory pour vous aider à trouver c'est quoi le chemin le plus court vers Domain Admin. Donc, il y a d'autres fonctionnalités, mais en gros, si vous allez chercher toute cette information-là, il y a les outils de collection qui viennent avec Bloodhound en Python et en PowerShell. Vous allez chercher plein d'informations au niveau d'Active Directory, aller chercher tous les memberships de groupe, aller chercher tous les comptes admin locaux, qui est-ce qui a des permissions à travers ça, puis ensuite de ça, vous insérez ça dans la base de données de Bloodhound qui, lui, va commencer à regarder les liens entre tous ces objets-là. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un compte qui n'a pas vraiment de droits élevés sur Active Directory ou sur un contrôleur de domaine, mais peut-être qu'en tant que technicien au helpdesk, vous êtes capable de changer les mots de passe de d'autres utilisateurs. Normalement, en tant que personne qui travaille au helpdesk, vous ne devez probablement pas avoir le droit de changer les mots de passe de des comptes de service ou de des comptes administrateurs qui ont des droits plus élevés que les vôtres, mais c'est des trucs qu'on voit super souvent en entreprise. Des fois par erreur, des fois c'est voulu, mais on n'a pas vraiment pensé aux implications de sécurité de ça. Donc, en tant que Blue Team, si vous installez Bloodhound, mettez ça sur une machine qui est assez bien sécurisée quand même, là, parce que les infos qu'on va aller chercher là-dessus peuvent être assez critiques. Si vous faites attaquer et vous avez une belle BD Bloodhound préconstruite à l'avance, ça peut donner sauver un peu de temps au Red Team ou à la personne qui est en train de vous attaquer. Allez chercher le plus d'informations possible avec les outils de collection de Bloodhound. Ça va vous générer un paquet de fichiers JSON que vous allez ensuite dropper dans l'interface de Bloodhound. C'est une interface web. Vous prenez vos fichiers, vous les déposez là. Puis ensuite, Bloodhound va commencer à analyser puis faire les graphiques pour générer tout le chemin vers les domaines admin. Donc moi, qu'est-ce que je recommande vraiment au Blue Team, c'est de rouler Bloodhound, commencer à jouer avec les informations qui ressortent de là, puis de l'utiliser quand vous avez des initiatives pour sécuriser, par exemple, les comptes des administrateurs, des comptes de services, etc. Donc, c'est pas juste de regarder qu'est-ce qui permet de se rendre à Domain Admin, mais aussi regarder à partir du compte d'un technicien, par exemple, jusqu'où je peux me rendre, à partir du compte de services qui roule sur tous mes postes de travail parce que, je sais pas, mes scans de vulnérabilité sont faits avec ce compte de service-là, jusqu'où je peux me rendre. Puis des fois, c'est assez surprenant de voir que, bon, avec ce compte-là, je peux aller changer le mot de passe de tel autre compte. Ce compte-là est capable d'écrire à telle place. Il peut changer le fichier qu'un service qui roule en tant que quelqu'un d'autre va rouler. Fait que des fois, on trouve des chemins quand même assez intéressants à travers 3, 4, 5, 6 étapes pour se rendre jusqu'à Domain Admin. Puis, ça va vous permettre de vraiment sécuriser qu'est-ce qui est le plus important parce que souvent, tu sais, je sais pas pour toi, Nick, mais quand tu as 1000 comptes de service, des fois, c'est un peu difficile de voir lequel tu sécurises en premier, comment tu commences. Puis, tu sais, des fois, commencer en ordre alphabétique, ça peut être super dangereux quand c'est celui qui commence par T qui est le plus dangereux. Fait que des fois,
Oui, il y a ça, puis je te dirais que des fois, souvent on parle des comptes de service, il y en a des fois qui ont des qui ont été installés parce qu'on était un peu pressé pour peu importe la raison pour qu'on était pressé, puis généralement, ils ont un peu plus de privilèges qu'ils devraient en avoir, donc de les remonter puis d'être capable d'aller justement les repérer, ceux qui sont finalement plus dangereux et puis qui peuvent servir à d'autres sens. Mais c'est-à-dire, je sais pas pour toi, moi j'ai déjà été un admin dans un domaine NT4 il y a déjà ça une vingtaine d'années. Et on utilisait des comptes de service dans des domaines dans lesquels on a des domaines de ressources qu'on avait moins de privilèges d'accès comme domaine admin parce que c'était chose. Fait qu'on par en dessous, on embarquait avec des. On le faisait, donc, fait que l'humain le faisait à ce moment-là. Donc,
mais
pour ça qu'à ton cartographier.
Ben exactement. Puis juste la fonction qui permet de mettre des groupes dans d'autres groupes, c'est facile quand on a deux, trois niveaux de garder la carte dans notre tête, dire ce compte-là est membre du groupe administrateur de système, le groupe administrateur est membre du groupe admin local sur les serveurs de fichiers, puis ce groupe-là est mis dans le compte local. C'est deux, trois niveaux, on peut s'en souvenir dans notre tête, mais le problème, c'est que ça devient souvent beaucoup plus compliqué que ça. Là, il y a plusieurs domaines, il peut y avoir plusieurs forêts qui sont impliquées. Puis surtout, même, il y a des cas où on peut se ramasser avec un genre de relation circulaire qui finit pas. Là, tu sais, le groupe A est membre du groupe B, qui est membre du groupe C, qui est membre du groupe A. Là, ça devient vraiment compliqué.
Il y a ça, puis ça demande une rigueur de déploiement, de maintenir, parce que j'ai vu les organisations qui ont quitté jusqu'à deux ou trois niveaux. La nomenclature structure le chemin.
Oui, exactement. La nomenclature, c'est vraiment, vraiment la clé si on veut être capable de faire ça d'une façon qui est propre. Là.
Puis, mais même avec ces efforts-là, à terme, après deux ou trois ans, il y a toujours du monde qui ont pris des raccourcis à un moment donné, puis on perd la trace. Puis là, on se retrouve avec des groupes qui n'ont pas d'affaires, qui ont des droits, qui n'ont pas d'affaires, parce qu'on a une urgence.
Donc, d'être capable de regarder c'est quoi les permissions que les comptes ont, c'est quoi leur vrai groupe. Autrement dit, une fois qu'on déroule tous les groupes qui sont reliés un dans l'autre, le compte de service X ou le compte de l'usager Y, il est vraiment dans quel groupe au total? C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Puis ça permet de voir ça avec Bloodhound. Puis de prendre tous ces trucs-là puis de les remettre ensemble pour voir qu'est-ce qui pourrait permettre à quelqu'un de faire une attaque. Donc, ça regarde aussi comment on pourrait être persistant en utilisant les fonctionnalités comme Admin SD Holder puis SD Prop. Il y a des fonctionnalités différentes dans Active Directory pour protéger les comptes à super haut privilège de, par exemple, jamais être verrouillé et des trucs comme ça. Puis c'est des trucs qu'on peut utiliser contre Active Directory, mais c'est aussi des trucs qui deviennent pas propres au fil du temps. Puis je pense que j'ai pas vu beaucoup de domaines Active Directory qui sont récents. T'sais, je pense que les compagnies ont commencé à utiliser Active Directory pour la plupart autour de 2003-2004. Il n'y a comme pas beaucoup de monde qui décide de migrer de Novell à Active Directory en 2018. Là. Donc, tous les Active Directory qui sont déployés en ce moment datent d'il y a vraiment longtemps. Ils souffrent du fait que les privilèges par défaut puis les GPO par défaut à l'époque étaient vraiment moins bonnes que maintenant. Donc, quelqu'un qui monte un domaine flambant neuf sur 2016 avec des serveurs 2016 puis des postes de travail Windows 10, ce n'est pas sécurisé de la même manière que quelqu'un qui a upgradé de 2003 à 2008, à R2, à 2012, à 2016, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne changent pas quand on fait une mise à jour dans Active Directory. Fait qu'avec Bloodhound, ça va vous permettre d'identifier les trucs qui sont les plus critiques. Mais en parlant de forêt puis de domaine, ça me fait penser, là, une chose qui est vraiment importante, puis vous allez le voir, si vous êtes une Blue Team qui a un domaine Active Directory qui est assez gros, premièrement, il ne faut pas considérer un domaine comme étant une démarcation forte. La démarcation, c'est vraiment la forêt, ce n'est pas le domaine. Il faut assumer qu'il y a quelqu'un qui admine le domaine sur un des domaines dans la forêt et serait assez facilement capable de monter à Enterprise Admin puis faire de contrôler la forêt au complet. La même chose est vraie pour un administrateur local sur un contrôleur de domaine. Quelqu'un qui est administrateur sur un contrôleur de domaine va éventuellement être capable d'être Enterprise Admin puis de prendre le contrôle de la forêt. Donc, les premières fois que vous allez commencer à utiliser Bloodhound, commencez à penser comment vous pourriez utiliser justement les forêts pour aller chercher un niveau de sécurité plus élevé. Pour la plupart des entreprises, c'est peut-être pas la prochaine étape la plus logique, mais si vous avez déjà un bon niveau de maturité, de commencer à utiliser des forêts différentes pour les administrateurs de système, ça peut être un but que vous voulez atteindre à un moment donné. Mais la chose que vous allez voir à plus court terme, vraiment rapidement, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir en mémoire puis d'avoir des permissions partout pour des comptes de services qui sont super puissants, qui peuvent être soit admin local sur beaucoup de postes de travail ou des droits sur le domaine. Puis de surtout jamais avoir des comptes qui sont capables de se rendre assez facilement à domaine admin. Jamais avoir ces comptes-là, ne pas leur permettre de se loguer sur des postes de travail parce que ce qui arrive, c'est que ça laisse traîner des comptes en mémoire. Donc, assurez-vous de bloquer l'accès aux postes de travail, aux comptes qui sont, par exemple, domaine admin, enterprise admin ou des comptes vraiment super puissants là, de des groupes custom que vous avez fait. Donc, autrement dit, si tu es admin de domaine, tu ne devrais pas être capable de te loguer sur un poste de travail. Tu devrais juste être capable de te loguer sur des postes de travail dédiés à l'administration du domaine.
Ça, ça recommande ça d'ailleurs aussi, de déplacer tous les VM de postes d'administration. Là.
Exactement. Donc, Microsoft les appelle les PAW, là, Privilege Administration Workstations. Donc, ça, c'est vraiment la première étape à regarder après que vous ayez commencé à démêler tous vos groupes puis faire le nettoyage dans Bloodhound au niveau des permissions pour être capable de vraiment déplacer les domaines admin à un endroit qui va être le plus limité possible pour garder le contrôle. Donc, pour commencer à utiliser Bloodhound, c'est pas compliqué. Montez-vous une machine virtuelle sécurisée comme il faut. Personne ne peut se connecter dessus sauf votre équipe de sécurité. Il y a une base de données Neo4j qu'il faut installer. Donc, ça prend Java, tout ça. Il y a l'interface web. Assurez-vous de soit pas l'exposer au réseau puis de mettre des mots de passe qui aient de l'allure dessus. Ensuite, vous roulez les outils pour aller chercher les données à gauche, à droite. Je recommande ceux en PowerShell, pas ceux en Python parce que il y a des fonctionnalités qui sont pas présentes dans la version en Python. Puis aussi, bon, la plupart des gens vont avoir PowerShell déjà disponible. Ça se peut que vous ayez un peu de la misère avec vos politiques d'exécution PowerShell. Donc, faire un petit double-check là-dessus si vous permettez juste les scripts PowerShell qui sont signés ou quelque chose comme ça. Bon, c'est assez facile à bypasser. Je pense pas que ça va causer grand problème à grand monde, sauf peut-être la première tentative. Ramassez toute cette information-là. Regardez votre graphique. Puis, une fois que vous aurez fait votre premier clean-up, je suggère fortement de réexécuter la collection des données de façon périodique, puis de regarder, là, parce que des fois, ça prend juste un compte quelque part, puis ça vient tout changer dans le modèle.
C'est d'avoir une hygiène constante avec ce genre d'outils-là, mais c'est comme la plupart des outils en sécurité doivent être roulés de toute façon régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas eu des changements d'état, parce que ces environnements-là ont tendance à être très dynamiques, puis réagissent à la réalité, là.
Exactement. Donc, c'est quelque chose, si vous pouvez l'exécuter une fois par semaine ou une fois par mois au moins, réimportez ça dans votre base de données, puis regardez si le graphique n'a pas changé, parce que des fois, vous allez voir, on a rajouté tel logiciel, il a besoin de telle permission, il tombe dans un groupe qui est capable d'aller changer la permission sur un autre truc, puis à travers 4-5 étapes, on se rend compte que tout le modèle de délégation qui a été mis en place avec la belle nomenclature puis les beaux principes, ben, vient de tomber parce que je sais pas, on a un nouveau photocopieur avec un compte de service qui a un peu trop de permissions. Fait que, tant qu'à moi, ça serait pratique d'avoir ce genre de visibilité-là directement dans Active Directory. C'est pas un outil qui fait partie des admin tac par défaut de Microsoft. Il y a certaines choses qui existent, là, côté Azure AD, qui ressemblent un tout petit peu à ça, mais sérieusement, si vous avez un vrai Active Directory, non pas juste Azure AD, c'est un incontournable.
Oui, ben c'est ça. Ça veut dire que, fait que Microsoft l'intègre comme toutes les choses de SIS internals qui ont été intégrées avec les années.
Ben, en fait, c'est que la façon que ça collecte les données est vraiment intensive dans le sens où ça se connecte partout, ça va aller chercher les comptes admin locaux, ça va aller faire un extract de tous les comptes, tous les groupes, ça remet tout ça ensemble. C'est pas vraiment le genre d'outil que Microsoft a tendance à inclure dans leurs outils de gestion. Mais par exemple, au niveau de Azure AD, vu que c'est dans le cloud et qu'il y a déjà beaucoup de données qui sont de leur côté, ils ont déjà des modules de visualisation qui sont un peu plus avancés là, au niveau des memberships de groupe. Mais le seul truc, c'est que c'est la même chose que Active Directory 2016. Il y a très peu de gens qui roulent un environnement d'une grandeur plus que quelques utilisateurs qui roulent avec juste Azure AD. Parce qu'on s'entend, on ne pouvait même pas joindre un poste de travail à Azure AD avant Windows 10. Fait que bon, il y a beau avoir des outils de ce côté-là, ça ne sera pas demain, la veille, qu'on va pouvoir utiliser ça uniquement.
Oui, mais de toute façon, il y a un move de Microsoft là, d'aller vers du claim-based aussi, là, puis d'aller dans un modèle comme ça va favoriser une meilleure visibilité de tes choses parce que tu vas centraliser. Parce que sur Windows 2016, tu es capable de centraliser toutes tes policies de fichiers sur un serveur central. Ils sont en train de se déplacer tranquillement vers cet univers-là, mais de ce que je vois, les organisations... Il n'y a pas beaucoup qui sont prêtes à adhérer à ça, puis ils vont même répliquer des modèles de gestion de Windows 2012 dans un AD de Windows 2016 parce qu'ils sont juste pas familiers avec les...
Bien, il y a ça. Il y a aussi le fait que les noms des outils sont mélangeants. Tu sais, Azure AD, quand on voit ça, on pense que c'est Active Directory, mais c'est une version managée par Microsoft, mais c'est très, 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 très différent de Active Directory. Il y a tout le principe de la synchronisation des comptes qui passe souvent d'un vrai Active Directory qui est on-prem. Donc, celui-là peut être attaqué par les mêmes problèmes que Bloodhound va aller identifier. Puis si on prend le contrôle d'un compte, il va se faire synchroniser dans Azure AD. Puis tout ce qui est claims-based, bien, avec des applications web, des trucs plus modernes, ça va fonctionner. Mais encore là, avant qu'on arrive au point où c'est vraiment du vrai RBAC, des rôles qui sont clairs, que la portion locale, tu sais, les postes de travail, tout ça soit géré avec ça. On en a pour 10 ans pour la plupart des entreprises avant d'arriver là.
Oui, ça juste pour en termes d'aisance, que les entreprises ne sont pas là encore, puis même dans le mode web, ils ne sont pas encore tout à fait là non plus. Ça prend un temps avant de changer sa philosophie de gestion de tes accès, mais Microsoft pousse très fort dans cette direction-là. Fait que j'imagine qu'après Windows 2016, ils vont revenir à la charge avec ça de façon encore plus musclée.
Oui, absolument. Là, ils ont introduit des nouveaux outils de Privilege Identity Management dans Azure qui sont quand même assez intéressants tout ça. Fait que c'est sûr que les architectes de sécurité, vous devriez commencer à regarder de ce côté-là pour le plus long terme.
Ouais.
Puis en attendant, là, les Blue Team, montez-vous votre petit processus de Bloodhound mensuel pour identifier tous les trucs qui génèrent le plus de risques. Comme ça, à chaque mois, vous allez trouver une couple de nouvelles affaires à aller cleaner. Puis ce que ça va donner, c'est que la prochaine fois qu'il y a un Red Team qui va exécuter Bloodhound, vont voir que, oups, j'ai pas de chemin si facile que ça pour me rendre à Domain Admin parce que tous les trucs faciles à trouver, en tout cas au moins, ont été couverts. Fait qu'on va les faire travailler un peu plus. Là, si le Red Team n'a pas besoin de se forcer, c'est pas le fun pour personne.
Non, c'est ça. C'est sûr que ça donne des rapports plus faciles aussi pour le Red Team, mais c'est comme toute chose, il faut avoir la conscience de son propre environnement. Fait qu'il faut savoir que dans quoi on est. Fait que ça, c'est un outil qui est, pour le défensif, très utile à avoir. Là. Ça fait partie de l'arsenal qu'on devrait rouler régulièrement. Là. Cela est parmi d'autres.
Exactement.
Fait que c'est bon. Fait qu'on va conclure sur Bloodhound.